Karine, on t'entend pas du tout. T'es jaune pourtant. T'es pas force jaune. Bon, attends, je vais essayer d'autres forces. Vas-y, parle. Aïe, 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 parle là, c'est mieux.
Bonsoir.
Ouais, ouf, t'étais force jaune, mais dans un autre layer, quoi.
Ok.
Eh oui, c'est ça, le passage au numérique. Eh ben, on est ensemble jusqu'à 22h dans Imaginaire sur le 101.5. Nous commencerons cette émission par un retour enregistré par Sébastien sur sa soirée d'Halloween qu'il a passé sur Twitch. Avec un streamer qui s'appelle Danou et qui fait des soirées dont vous êtes le héros. Alors, il prend un livre dont vous êtes le héros, enfin un livre-jeu. Et tous ceux qui sont sur le chat, en fait, participent au vote pour aller à tel ou tel chapitre.
Ok, voilà. Sympa.
Donc, on va s'écouter un petit bilan de tout ça. Cette soirée-là, c'était consacré à un livre-jeu dont on avait déjà parlé, parce qu'on avait eu l'illustrateur Xavier Desbarras en interview dans cette émission. Ça s'appelle Le Slasher,
oui.
Dont vous êtes le héros,
oui, tout à fait,
qui est sorti chez Pulse cette année en complément, à la base de leur gros livre sur le cinéma de slasher. Ensuite, on t'écoutera pour une chronique, voilà. Coup de cœur littéraire.
Exactement. Robustia de Betty Piccioli. Piccioli. Je ne sais jamais comment on prononce son nom de famille, j'en
Betty,
suis désolée.
Betty, si tu nous écoutes, tu peux nous appeler.
Et il a été publié aux éditions Scrinéo.
Ok. Et puis après, en troisième partie d'émission, on écoutera l'interview de Karim Berouka et Zariel. Que vous avez réalisé, enfin c'était Pierre-Marie,
oui.
Et Romuald, qu'on entend tout petit peu de temps en temps, enregistré aux Utopiales, où ils venaient faire la promotion de leur dernière sortie chez ActuSF, Pam Pam, au Pays des Merveilles ou pas ?
Exactement.
Ouais, ok, j'ai bon.
Si mes souvenirs sont bons.
Allez, c'est parti, on commence avec la chronique de Seb tout de suite sur le 101.5.
Coucou, c'est Seb sur Radio G. Vont suivre quelques extraits audio que j'ai sélectionnés d'une partie de livre-jeu un slasher dont vous êtes le héros, à laquelle j'ai participé la nuit d'Halloween. Et ce, par chat, aux côtés de quelques dizaines de participants connectés sur la chaîne Twitch du Suisse Danou, qui nous a donc fait jouquiner à un livre-jeu mortellement bien. Rejoint pour l'occasion par l'auteur, Alexandre Sanchez, plus l'illustrateur Xavier Desbarras, un des invités du dernier salon imaginaire d'ailleurs. Les dates du prochain salon étant les 13 et 14 mai 2023. Twitch, ouvert à tout type de jeu, se prête bien à des parties de livres dont vous êtes du coup les héros. Le conteur Danou faisant la lecture et proposant aux joueurs de voter sur ce qu'il convient de faire au moment où des choix de jeu sont posés. Vendredi 2 décembre, nouvelle nuit spéciale que Danou vous forge à compter de 20h. Une nuit passée à interviewer des rédacteurs du magazine Le Marteau et l'Enclume, spécialisé dans les dossiers thématiques de grandes collections et séries dont vous êtes le héros. Pas avare de surprises pour le 7e MOOC qui sort prochainement. Il sera ensuite extrait du 6e MOOC basé sur les livres jeux Dragon d'Or, une mini-aventure inédite de 63 paragraphes à jouquiner dans cet univers. Blue Sword de 1984. Ce sera une forme d'initiation brève à comment se vit une partie de livre-jeu sur Twitch. Chose que je juge hautement sympathique suite à mon expérience live d'un slasher dont vous êtes le héros. Soyez ainsi au rendez-vous le 2 décembre, les amis, pour découvrir cela.
C'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez aller visiter la classe de maths ou la classe d'art plastique? Je répète, pour faire les votes, tapez 1 ou 2 dans le chat et votre choix sera pris en compte. Lorsque vous rentrez dans la salle d'art plastique, le spectacle qui vous y attend vous cloue sur place. Vous tombez sur 5 cadavres d'étudiants dont les membres sont éparpillés sur le sol. Les toiles vierges de la salle sont imbibées de sang, comme si l'auteur de ce massacre avait souhaité à sa manière immortaliser la scène. Dernier détail, mais non des moindres, un bref coup d'œil vous permet de constater que les troncs et les têtes et les membres de ces cinq jeunes victimes sont placées de façon à former un pentacle sataniste. Putain de merde, c'est quoi ce cirque ? Murmure Mike en se plaçant à vos côtés. Soudain, Mike vous paraît bien moins effrayant. Je ne sais pas, Queen et vous. Changement de plan, crie Mike. On se casse d'ici. Rendez-vous au 95. Mike a les boules. Vous rejoignez l'entrée principale du bâtiment et constatez qu'elle est fermée à clé. Mike essaye de forcer la porte, mais sans succès. Vous décidez de rallier les classes du rez-de-chaussée pour trouver des fenêtres qui vous permettraient de vous échapper. Malheureusement, toutes les portes sont verrouillées, voire barricadées pour la plupart. C'est alors que vous apercevez une silhouette au bout du couloir, une paire de griffes en acier surplombant les phalanges de l'individu. Vous fuyez en compagnie de Mike qui, terrorisé, vous indique les escaliers du premier étage, cette fois de l'autre côté du bâtiment. Rendez-vous au 310. Vous avez un Freddy Krueger en puissance à vos trousses. Vous ne vous attardez pas au premier étage et ralliez directement le deuxième, espérant ainsi prendre de la distance avec la personne qui vous piste. Le troisième et dernier étage du bâtiment vous tend les bras. Vous songez à fuir, voire vous débarrasser de Mike, vous gagnez 2 points de témérité, rendez-vous au 123. Vous avez trop peur pour cela, vous perdez 1 point de témérité, prenez la direction de 278. Donc c'est un choix où nous allons gagner ou perdre des points de témérité. Au cours de l'altercation, vous vous enfoncez dans le labyrinthe de meubles. Mike vous poursuit en hurlant de rage lorsqu'en pleine course, sa tête est sectionnée et roule en direction des ténèbres. Son corps, dont s'échappe un geyser de sang, s'écroule au sol. Donc Mike vient de mourir. Vous avez enclenché par erreur un piège diabolique. Une hache suspendue au bout d'une corde a décapité Mike. Le tueur apparaît entre 2 bureaux et se jette sur vous. Vous voilà cette fois dans une impasse. D'un puissant coup de pied, l'individu encapuchonné ébranle une colonne de table qui finit par vous tomber dessus et vous écraser. Le choc est violent et vous avez perdu connaissance. Votre aventure se termine malheureusement ici.
J'ai eu la chance de participer au live d'Halloween de Danou sur le livre Le Sachant dont vous êtes le héros, dont je suis l'auteur. Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris parce que il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup d'engouement. Les gens ont été très solidaires entre eux. Il y avait des luttes pour tenter de trouver le bon choix, la bonne approche. Et je trouvais ça très marrant parce que, étant donné que je connais très bien le plan du livre, voir comment ils allaient réagir et quelles étaient selon eux la meilleure méthode à adopter pour ne pas mourir dans ce slasher dont vous êtes le héros. C'était quand même quelque chose d'assez formidable. Et puis, il faut aussi avouer que Danou est un très bon conteur. Je l'ai un peu aidé. Par moments, je mettais des petits votes ou j'essayais d'aiguiller les joueurs pour qu'ils puissent trouver une fin positive. Il n'y en a pas beaucoup dans ce livre, hein, mine de rien, c'est un die and retry. Mais Danou a vraiment été à la hauteur. Il a fait gagner des cadeaux tout au long du live. Et au final, ça a duré quand même plus de 5 heures. Et j'ai été très étonné parce que les gens sont restés. Il y a eu une quarantaine de spectateurs constamment du début à la fin du live et c'était vraiment une expérience formidable, beaucoup de gens satisfaits, moi le premier, et je voudrais vraiment remercier Danou pour ça parce que c'était vraiment une chouette soirée.
Pour clore en chanson, plaçons-nous sous l'étoile noire d'Isia, de concert au Shabada en semaine, défendre son 5e et dernier album La Vitesse. Vite, accélérons pour tirer ensemble le bon numéro, le 101.5 FM, naturellement.
Fins demà!
Rebusia dans l'imaginaire sur le 101.5. On la retrouvera en concert demain soir au Shabada. C'est complet. Un extrait de son cinquième album, La Vitesse, Étoile Noire. J'ai pas l'impression qu'il y ait de rapport avec Star Wars, mais j'aime bien ce morceau quand même. Merci Sébastien pour ce choix. Allez, Karine, je te mets ton jingle.
Dans Robustia, Betty Piccioli nous replonge dans l'univers de Chromatopia. Ainsi, nous retrouvons le personnage d'Aeko et d'autres personnages au fil du récit. Nous découvrons une cité qui se nomme Robustia, donc le titre du roman, la capitale qui assure la protection des autres villes contre des denrées et autres produits. C'est une cité où chaque alliage de métal correspond à une position sociale. Nous faisons la connaissance d'une jeune femme nommée Brianne, qui vient d'obtenir un poste de conseillère d'Electrum, et de Kal-El, un conseiller d'Eran, qui a perdu son statut d'Electrum lors d'un combat contre Brianne. Dans cette cité qu'est Robustia, tout se joue sur la force et le courage. Cependant, Brianne souffre d'une maladie qu'elle doit donc cacher aux yeux de tous pour ne pas perdre sa position sociale. On peut facilement imaginer que ce ne sera pas du tout de tout repos que de tenter de cacher ce signe de faiblesse selon les règles de cette cité. En parallèle, les liens entre Chromatopia et Robustia se ternissent. Chromatopia ne remplit plus sa part du marché et cela entraîne de nombreuses décisions politiques. Aeko va donc être, malgré lui, le porte-parole de Chromatopia, alors qu'il venait seulement pour découvrir la capitale et ainsi découvrir ce qui se cache vraiment derrière Robustia, dont il a eu quelques échos. Le lecteur va donc suivre au fil des pages les points de vue de chacun de ses personnages principaux en alternance. Et l'autrice poursuit ce qu'elle a entrepris avec Chromatopia, à savoir la volonté de dénoncer la hiérarchie à travers cette prise de poste par la force lors de combats dans Robustia. Elle aborde également dans ce dernier quelque chose de très important et peu, voire pas illustré dans la littérature, à savoir le cycle menstruel d'un personnage.
Ah oui ?
Oui. En effet, Brianne souffre d'endométriose, une maladie qui ne l'empêche pourtant pas d'affronter sa nouvelle position et de se battre. Cette mise en avant rend Brianne d'autant plus humaine et attachante que l'on peut très facilement s'identifier par ce biais. Nous retrouvons également avec plaisir la structure du roman de Chromatopia, à savoir quelques passages intercalés en italique entre les chapitres qui nous laissent des pistes petit à petit sur une double lecture du récit. Les différentes perspectives des personnages sont habilement menées afin de laisser le lecteur sur sa faim. Après un certain chapitre, l'autrice nous happe complètement en mettant en lumière les ressentis des personnages. Et Betty Piccioli est passionnée par la littérature jeunesse et young adulte. Ainsi, vous pouvez la retrouver également dans l'univers des livres-jeux avec Qui a tué Luna San, Meurtre au Comic-Con, paru chez 404 éditions, et dans la collection Dans la peau de chez Larousse Jeunesse. Je vous invite donc à découvrir une belle plume engagée sur de nombreuses causes et qui apporte un nouveau regard sur la littérature de l'imaginaire. Si vous n'avez pas lu Chromatopia, voilà. Je ne peux que vous conseiller de vous laisser porter par cet univers.
Mais du coup, on peut enchaîner directement sur ce deuxième roman, enfin je veux dire sans lire le premier.
Bah, il peut se lire indépendamment,
okay.
Mais c'est toujours mieux d'avoir quand même quelques indications, parce que forcément, on revient aussi sur l'univers de Chromatopia.
Et certains personnages aussi.
Voilà.
Ok.
Et je reste là-dessus.
Mais tu nous as prévu un morceau là aussi, il faut l'annoncer.
Exactement.
Ce truc ultra violent.
Bah, non, c'est pas violent.
Ah bon. Bon, les auditeurs en jugeront.
Je vous propose une chanson d'Aist, je ne sais pas comment prononcer, du groupe Lamb of God sur Radio G.
Why do you give a God?
Un peu violent quand même.
Non,
c'était Ditch. Donc c'est le dernier morceau de Lamb of God, hein, je crois. C'est une nouveauté, il me semble, Karine.
Alors, très bonne question. J'avoue que je n'ai pas regardé.
Elle sait même pas ce qu'elle écoute. Elle sait même pas ce qu'elle choisit.
Mais tu sais, bon, tout est sur une playlist programmée.
Que quelqu'un te fait. Bon, t'as de la chance.
Non, une appli.
Ah ouais. Une appli, une intelligence artificielle qui t'aide à choisir tes musiques. On va passer à l'interview de Karim Berouka et Zariel. Est-ce qu'on les présente ? On les présente plus. Ils étaient venus donc pour aux Utopiales pour faire la promo donc de Pam Pam au pays des merveilles. L'interview de Pierre-Marie porte sur ce roman donc écrit par Karim et illustré par Zariel. Ouais. Interview qui a été réalisée dans la salle de presse Catherine même, je sais pas. Entendre la machine à café des Utopiales, enfin au moins de la salle de presse si vous tendez bien l'oreille. Interview un petit peu commando, guérilla, on pourrait dire, mais voilà. Intéressant. Et donc, on s'écoute ça tout de suite dans Imaginaire sur le 101.5.
Tu as fait les zombies. Tu as fait énormément de nouvelles qui sont des nouvelles, des réadaptations de choses qui existaient déjà. Je pense notamment à Le Haricot Magique, Jacques et le Haricot Magique.
Tout à fait, ouais.
Pas que. Tu as fait un roman sur Fée Weed et Guillotine.
Ouais.
Très intéressant. Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu.
Ouais.
Et là, comment est-ce que t'en arrivais à te dire je vais parler de Pampan ?
Alors, Pampan ou Pam Pam, hein, parce que c'est vrai qu'il s'appelle Pampan chez Disney.
Et c'est avec un N.
J'avais écrit un début d'histoire. En fait, j'avais envie de raconter l'histoire d'Alice du côté du lapin, en fait. Mm-hmm. Et ça faisait super longtemps, j'avais deux pages d'écrites sur. Et puis, en fait, à un moment, Zariel me dit je devais faire un graphique. C'est une collection qui est chez AQSF qui s'appelle Graphique, où il y a du texte et puis quand même plus d'illustrations que. Enfin voilà, c'est pas un roman graphique, mais c'est illustré, richement, on va dire, avec talent surtout. Et
il sait pas ce qu'il est là.
Voilà, c'est ça, quand il est pas là. Et il nous a dit il y a un truc qui nous a lâché, je sais pas quoi, il y a eu un peu. Enfin, moi ce qu'il m'a dit, il y a une place. Toi ou...
En fait, moi, je suis arrivé, on faisait les dédicaces de Club des Punks.
Ouais.
Et,
moi, c'était ça, Annecy.
J'étais un peu frustré par Club des Punks parce que c'était un truc qui était déjà édité. Mm-hmm. Donc, c'était pas un truc original, même si ce bouquin-là est complètement original avec le CD et les illustrations. Mais, Donc moi je voulais faire un graphique avec Karim. Et Jérôme, donc l'éditeur d'ActuSF, nous a dit bah ouais c'est jouable mais faut qu'il sorte au mois de mai. On était en décembre.
Oui je crois qu'il. Enfin oui, il m'a dit j'ai une place. Enfin bref, c'est pas grave.
Et voilà, Karim a joué le jeu.
On speedé, moi j'ai ressorti, j'ai regardé ce que j'avais, j'ai fait quelques essais sur d'autres trucs, j'ai mis un peu, je me suis enroulé, j'étais à la bourre, et puis tout d'un coup j'ai fait ça, j'ai dit ah ouais cool. Et puis c'est. Bref, c'était un texte, j'avais les deux premières pages depuis à peu près, je sais pas, 5, 6 ans, 7 ans. Mmh. Comme j'ai à peu près dans mes dossiers 20 ou 30 romans qui sont commencés ou qui vont d'une page à un chapitre et que je finirai probablement jamais. Mais celui-là c'est fait. Et puis quand c'était speed, ben, j'ai envoyé les chapitres à Zariel et puis il a dessiné. Puis...
Comment est-ce que tu as travaillé d'ailleurs, Zariel? Puisque tu reçois un texte court de la part de Karim. Mmh. Tu fais à la fois la couverture et puis les illustrations intérieures qui servent à alimenter le texte, on va dire ça comme ça.
Ouais, c'est ça.
Comment est-ce que tu as fait? Tu as lu le roman et tu as dessiné en même temps que tu lisais? Tu as reçu des passages? Comment est-ce que...
Non, là... Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir une globalité du truc, quand même. Et en plus, moi, c'est les collections graphiques, comme toutes les autres collections chez ActuSF, c'est moi qui les maquette, c'est moi qui fais les couves et tout. Donc, là, ce qui est cool, c'est que je suis vachement plus libre sur l'objet en lui-même. Mais non, je l'ai lu en entier. Et en fait, généralement, je le lis une fois. Je le laisse mûrir dans ma tête. Et après, ça part d'un jet, quoi. Je crois que pendant deux semaines, j'ai gratté pendant deux semaines sur toutes les illustrations.
Je t'avais pas envoyé le truc bout par bout, non? Non, tu les lisais pas,
Non, moi, tu m'as dit, bah, j'ai avancé, je t'envoie ça. Je crois que je l'ai jamais reçu.
Ouais,
mais c'était pareil pour La Fille aux Mains Magiques. Ouais. On avait déjà le texte, il était traduit et tout, mais en fait, je préfère lire le texte en une fois, même si je le lis vite ou je le mets en diagonale, machin, pour voir de quoi ça parle, en gros. Et après, je le relis une deuxième fois avant de me mettre à dessiner, et ça part, quoi. Bah, là, fallait faire la couve d'abord. Je crois que j'ai fait la couve sans connaître le texte.
Ouais, j'avais dû te faire une sorte de résumé. Tu m'avais fait un lapin un peu plus vieux. Ouais. Je t'avais dit, je sais plus quoi.
Non, il était un peu plus psycho.
Psycho, j'y vais.
Il était complètement.
Je dis, attends, c'est un lapin. Hein, ça, c'est pas non plus, c'est de vicieux.
Ce roman, donc, on va suivre un lapin, personnage principal, un lapin anthropomorphe qui rentre au Pays des Merveilles.
Il n'est pas anthropomorphe, hein. C'est un vrai lapin, hein, tout à fait. Il a autant de pattes qu'un lapin et autant d'oreilles
qu'un lapin.
Mais c'est vrai.
Mais il parle.
Il parle.
Et puis, il vit une vie qui qu'on pourrait rapprocher d'une vie humaine.
Ouais, il vit une vie de fou.
Ah, ça, oui.
Mais qui te dit que les lapins vivent pas cette vie-là? Est-ce que. Je sais pas.
À la suite de cette lecture-là, effectivement, le parallèle avec Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, très très facile. Mais.
Ben oui, surtout que.
C'est marqué en gros.
C'est marqué, regardez. En fait, le livre n'a pas été écrit par moi, il a écrit par Lewis Carroll, traduit du lapin par Karim Berokia, dessiné par Zariel. Mise en musique par Chopin.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de musique classique. Mais pas que. La question que je me suis posée, c'est dans Alice au Pays des Merveilles, à la fin, Alice se réveille. On ne sait pas si elle a rêvé ou si elle a vraiment voyagé.
Non, elle a rêvé, non, Alice au Pays des Merveilles. C'est clair, elle se réveille.
Ah, c'est ça que j'ai fait aussi. J'ai relu Alice au Pays des Merveilles avant de dessiner.
Et là-dedans, alors, est-ce que le lapin, il a rêvé ou il a vraiment vécu?
Pas du tout, c'est vraiment une histoire vraie, véritable.
C'est un documentaire animalier.
C'est un documentaire animalier. C'est Christian Zuber qui a fait la réalisation.
Comment est-ce que tu fais pour construire tes chapitres? Parce qu'il y a quand même des passages, des ellipses dans le voyage qui fait qu'on passe d'un endroit à un autre et les règles qui régissent les endroits n'ont rien à voir entre eux.
Ben, je voulais faire un peu comme Alice, où justement, Alice, elle passe d'un truc à un autre, on ne comprend pas trop pourquoi des fois. Il y a ce côté un peu absurde avec des épisodes on ne sait pas trop ce qu'elle recherche dans le bouquin, dans Alice, à part à rentrer chez elle. Et donc c'est un peu l'histoire de le Pam Pam qui veut rentrer chez lui, mais pas parce qu'il est effrayé, mais parce qu'il en a marre, en fait, ça le saoule. Et donc du coup, je voulais garder cette idée de chapitres qui sont un peu liés, puisqu'ils se déplacent, mais qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Les personnages ont des liens ou pas, on les retrouve pas. Je veux garder ce côté absurde.
Et là où Lewis Carroll faisait une critique de la royauté et de la politique de ce moment-là, quelle est ta critique dedans? Est-ce qu'il y en a une déjà? Est-ce que c'est un roman moralisateur?
Voilà, je vous sortais avec ça. Vous avez tout refait. Je vous refais votre morale et votre éthique. Il y a il y a des critiques de pas mal de trucs. Il y a notamment de la Princess Newspaper. C'est la critique des journalistes qui ne savent pas écrire en français. Je ne supporte pas. Là, il y a une critique de la SNCF. il y a une critique de la justice. Il y a, en sous-jacent, il y a un peu tout. En fait. Une critique du consumérisme avec Azamon, le démon du commerce. Donc c'est un peu poussé à l'extrême, parce que c'est vrai que dans Alice, c'est pas très flagrant. Pas très flagrant. C'est plus flagrant dans Gulliver ou des trucs comme ça. Mais là, il y a vraiment une critique permanente de l'absurdité du monde et de l'absurdité du monde.
Et comment est-ce que tu as pu traduire ça, toi, Zariel? Parce que tu reçois le texte, tu reçois les critiques d'un auteur avec son passif, et toi?
Je pense que tu me donnes trop d'importance dans ça. Je n'ai absolument rien traduit.
Tu l'as traduit en image.
Il y a tel côté. Déjà, il y a le côté punk de Karine, avec les Ludwig et tout, donc il y a ce background-là. Moi, j'ai traduit aussi ça par rapport à d'autres choses que je lis en BD. Comme Scotty Young avec Aid Fairyland et tout ça, donc je me suis vachement inspiré de ça. Et puis, c'est surtout que je me suis bien marré en lisant le texte, donc j'ai essayé de faire la même chose en faisant mes dessins, quoi.
C'est important, en fait, quand tu fais illustrer un bouquin, c'est que, enfin, toi, tu as une image qui est assez claire dans ta tête, que personne n'aura la même image. De toute façon, chaque lecteur va avoir une image différente des personnages, même si ça reste les mêmes persos. À partir du moment où il y a un dessin, on fixe un peu le truc. Donc, l'important, c'était pas de le fixer, à mon avis, c'est pas qu'il soit fixé trop, qu'il reste. On va avoir un lapin qui est comme ça, mais les autres persos sont assez. Je pense que on voit bien que c'est une fixation de l'illustrateur et que ça oblige pas à la lecture d'avoir automatiquement cette image des personnages, quoi. Alors graphiquement ça peut, mais il faut laisser le côté, on va dire, psychologique, même si c'est pas super poussé, mais quand même, tu vois, il faut garder ce côté absurde. Il faut pas que ces persos ils soient trop définis, en fait.
Comment elle s'appelle, la femme de Pompon, déjà?
Elle s'appelle Hildegarde.
Hildegarde. Pourquoi la femme de Pompon, qui n'existe que dans les souvenirs de Pompon, on est bien d'accord?
Alors, je suis assez étonné, parce qu'elle a quand même marqué beaucoup de gens, ce non-personnage. Parce que c'est assez drôle d'avoir un personnage qui fait pas partie du récit, mais auquel on se réfère souvent, et surtout pas le définir, parce qu'en fait elle change de métier tout le temps, elle est un peu la parfaite
sur tous les points.
Et en fait il fait des références à cette Hildegarde sans qu'elle intervienne dans le récit, sans qu'on sache vraiment qui c'est, parce qu'elle est un peu, on va dire, polymorphe, enfin pas dans sa forme physique, mais dans son...
C'est un peu aussi le personnage qui est le garant de la normalité, Hildegarde. Elle est pas dans le pays d'imaginaire. Je sais plus ce qu'elle fait, mais je l'imagine bien infirmière.
Elle est doctorante en lettres médiévales, je sais pas quoi. À un moment, elle est... Je crois qu'il y a le jeu du Chopin. C'est le personnage parfait, mais tellement parfait qu'il ne peut pas être dans le bouquin.
Et t'as pas eu envie de l'illustrer, ce personnage-là, justement, qui brille par son absence?
Non, pas du tout, au contraire. Non, il faut la laisser où elle est. Non, parce que j'ai dit, c'est un peu l'accroche qui fait que c'est le personnage qui est le seul personnage qui est réel, quoi. Enfin, qui est réel.
Il est réel, qui est
dans le monde qu'on connaît, nous. C'est le seul.
Et à la fois, il est complètement irréel, parce qu'il n'est jamais vraiment défini, il change en fond. Chaque fois que Pom Pom se réfère à Hildegarde, il va sortir un truc nouveau. Et on ne sait pas trop ce qu'elle fait.
Mais ça fait quand même trois archétypes de personnages. On a l'ensemble des personnages du monde de l'absurde qui sont tous une absurdité réel, on connaît, poussé à l'extrême, une absurdité. Pampon, qui est un punk, en fait, il n'en a rien à foutre de tout. Hildegarde, qui est le personnage, je ne vais pas dire parfait, mais le personnage qui est pragmatique, qui apprécie tout et qui le pousse à l'extrême et qui réussit tout. Mais pourquoi ces trois personnages? Pourquoi pas une histoire de punk au final de...
Non, parce qu'on a déjà fait une histoire de punk avec les zombies.
Oui, mais il n'y a pas de zombies. Il y a des fantômes.
Il n'y a pas de punk, là.
Il n'y a pas de punk,
non.
Pampan, c'est quoi, alors?
C'est un lapin. Pampan, c'est vraiment le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Il me dit le lapin qui va ôter avec le chapelier fou et tout ça, et qui, c'est, qui court tout le temps, et qui guide Alice, finalement, dans l'histoire. Enfin, elle passe son temps à essayer de le retrouver, tu vois. Alors que là, c'est le contraire. Lui, il essaie de courir après la fille qui... Parce que ça commence, il est en train de faire une sieste, peinard, et il y a une jeune fille qui sort d'un arbre. C'est le contraire, c'est pas le lapin, et qui lui fait un bras d'honneur, et du coup il est vénère, il le suit, il la suit, on va y arriver, et du coup voilà, il se retrouve dans un monde.
Je vais faire une petite lecture si ça vous dérange pas, et je vous demanderai de réagir.
C'est vrai, c'est mieux que ça soit.
J'aurais préféré que ça soit toi, parce que t'es une voix. Alors que...
Ouais, mais bon, enfin, je révise.
À quelques mètres, sur ma droite, à même le tronc d'un magnifique tilleul, une porte s'ouvre, et une jeune fille passe la tête. Sobrement habillée d'une robe de communiante afro-fro et coiffée d'une tarte de taffetas. Coup d'œil à gauche, la fille cesse tout mouvement, me fixe d'un œil noir, un sourire d'égorgeur de poule, lui révèle les babines. Et puis, sans aucune forme de procès, hé, lapin, triple buse et tête à claque, gros bouffon, tas de crottes à pince, lapin, bouffe tes poils et va te faire rôtir gros tas de cilets, couillon de garenne, fourreau pour pauvre. Pour conclure cette explosion de belles expressions si délicates et courtoises, un bras d'honneur, puis la demoiselle disparaît dans l'arbre. Insulte gratuite, provocation, la porte est restée ouverte. Je ne me pose même pas de questions. C'est dommage. Quelques secondes de réflexion et j'aurais sans doute évité de foncer tête baissée dans l'inconnu d'abord et dans les emmerdes ensuite.
Voilà, c'est plein de gros mots.
C'est plein de gros mots. Alors, ça me pose une question sur la rédaction. Là, je m'adresse encore une fois à l'auteur, l'illustrateur venant après. Pourquoi cette juxtaposition tout le temps sur un langage parlé et une langue châtiée?
Parce que Pam Pam, il a des lettres. Seulement quand il parle, il se laisse aller. Parce qu'en fait, quand on parle, moi j'aime bien quand les gens parlent, bon, sauf si je mets en scène des marquis et tout ça, mais quand je mets en scène des gens qui sont des gens plus proches de la notre réalité, il y a très peu de gens qui ont qui font jamais nous sortir un gros mot ou un truc comme ça. Bon, là c'est fait exprès parce que la jeune fille est quoi qu'il arrive une peste. Donc le lapin la poursuit et chaque fois qu'il va pour la croiser, elle insulte tout le monde, elle fait des conneries, tout ça. Donc ça c'est défini comme ça. Donc le personnage étant comme ça, évidemment, elle dit pas trop d'insanité, juste des sortes de trucs un peu blessants, genre fourreur pour pauvre.
C'est Zali dans le métro en fait.
Voilà, c'est ça. Mais voilà, et quand j'ai d'autres personnages sur d'autres, par exemple le club des punks, les punks ils parlent comme des punks, quoi. Quand j'ai quand je fais une histoire d'enquête dans Féoué des guillotines, ils disent pas crotte ou ça perd l'hippopète, quoi. Genre, c'est bon. et puis après, le langage de la narration, il est différent parce que ça me fait marrer d'écrire comme ça, quoi. C'est un choix. Mais moi j'ai pas une passion pour les gens qui ont une sorte de langage un peu trop lisse. Ça n'existe pas dans le monde où je vis. Donc quand les gens s'engueulent, ils se disent pas oh tu es méchant. Voilà, ils disent t'es un connard. Voilà.
Tu m'emmerdes.
Hein. Alors faut pas en mettre trop parce que c'est vrai que des fois je me laisse emporter, donc j'en viens parce que j'ai pas besoin de parler. Mais quand il y a une situation comme ça. Bah ça part comme ça. Mais là, il n'y en a pas tant. C'est plutôt. C'est cette fillette qui est une peste. Voilà. Ça fait partie de.
J'aimais beaucoup ce passage-là où on voyait vraiment la juxtaposition qui était vraiment très claire entre les deux. Et même question, Zariel, pas sur le niveau de langage, mais sur le style de dessin. Tu dessines, tu fais des encarts en noir et blanc. Et puis tu fais de la couleur, des insertions. Qu'est-ce que tu vas passer comme message? Est-ce qu'il y a un message déjà quand tu dessines en noir et blanc ou en couleur? Est-ce que ça montre une intensité sur le décor?
Bah déjà, il y a la contrainte technique. Parce que ça coûte très cher d'insérer de la couleur dans un roman comme ça. Donc il faut choisir les parties que l'on veut illustrer en couleur. C'était surtout pour accentuer certaines scènes que moi je considérais comme importantes et puis qui étaient plus visuellement, qui étaient beaucoup plus fortes, quoi. Ouais, tout simplement.
D'accord, donc c'est du pragmatisme plus que du
style. Sinon j'aurais tout fait en couleur.
Ouais,
c'est clair.
Dedans, il n'y a que de l'infographie ou il y avait du dessin à la main, des petits Mickey faits sur un coin de table qui finalement t'ont plu et que tu as reproduit?
À la fin, j'ai mis un petit carnet de dessins que j'ai fait à côté quand j'ai commencé à travailler sur le projet. Donc voilà, j'ai un peu mis tout ce que je crois que j'ai mis tous les dessins que j'ai pu faire sur Pam Pam. Tout est dans le livre.
C'est trop bien, lui.
Lorsque tu as sorti ce dont tu parlais au tout début de cette interview, ton livre, qui n'est pas vraiment un livre, mais qui est une bande unique, qui pouvait rappeler le club punk contre les zombies, dans le sens où c'est juste quelqu'un qui devient zombie.
Ah, techniquement, il ne devient pas zombie.
Est-ce que tu aurais envie de faire est-ce que ça serait possible de faire la même chose sur l'univers de Karim, avoir une bande qui pourrait retracer, en fait, sur une seule image, la
toute l'œuvre sur... de Karim.
Kilomètres. Zombie mort et vivant, c'est un peu particulier parce que c'est des carnets. Mes carnets de croquis, c'est des Leporello, c'est exactement le même format que le bouquin. Donc c'est des Leporello de 3 mètres de long, où je dessine au fur et à mesure dessus. Et à la fin, en fait, ce format, c'est fantastique, c'est qu'à la fin, quand tu déroules tous les croquis, ça fait une histoire tout seul.
Tous les trucs faciles à faire.
Complètement, c'est ça. Je suis une feignasse. Moi, j'avais l'idée un jour de rééditer, d'éditer ce format-là. Donc là, il est recto verso. Et c'est deux frises qui existent vraiment sur mes carnets de croquis. Même format, exactement la même chose. Et j'ai juste rajouté, j'en ai fait une BD parce que j'ai rajouté du texte dessus que j'ai écrit pendant le confinement. Tout allait ensemble d'un coup. Mais oui, après, c'est adaptable sur n'importe quel sujet, n'importe quel thème, même sur Karim. La vie
de Karim. Moi, j'avoue que faire un scénar pour Lapsus, c'est un peu compliqué dans ma tête.
Bien sûr.
Le Porello, moi je trouve que... Oh, oui, t'as l'air de dire que c'est facile à faire, mais moi, c'est un truc... Ça m'effraie.
C'est facile, c'est dans le sens où, en fait, la temporalité du dessin se fait tout seul. C'est-à-dire que si tu dessines tout le long, dessines au fur et à mesure un peu tous les jours.
Mmh. Oui, mais
même si tu fais pas attention à ce qu'il y a avant, en fait, ça crée une histoire tout seul. Ou une scène.
Ok. Moi, ça me paraît complètement compliqué, quoi. Genre d'avoir un truc qui se développe. Déjà, je sais pas dessiner, donc je me risquerai pas.
Ouais.
Mais par contre, c'est un truc que j'aimais. Alors, j'ai fait une fois un petit bouquin graphique qui s'appelle Cyclone, avec un artiste qui faisait des peintures. Et en fait, c'était on avait procédé de la manière inverse, c'est-à-dire il fait ses peintures, bon, il m'avait proposé plein de trucs, et à partir de ça, j'écris une histoire. Là, c'est le contraire. J'écris l'histoire, Ezariel fait le dessin. Mmh. Et donc, moi, je trouve ça aussi intéressant. J'aimerais bien faire ça. Genre, d'avoir un lot de dessins ou un truc graphique, tu vois. C'est pas forcément des dessins super, figuratifs. Mmh. Et à partir de ça, tu organises un truc et tu crées une histoire. Il y avait un thème, c'est les trucs de ça s'appelle Petite Bulle d'Univers, d'organique. Ouais. Mmh. Et c'est assez génial, en fait, parce qu'à la fin, tu construis ton histoire sur le graphisme et puis c'est un procédé d'écriture qui est différent et qui demande vraiment plus de réflexion que là où
là
t'as aucune contrainte. Enfin, t'as la contrainte que tu te mets de...
Faut qu'on te mette en relation avec le kernoplaste, hein, parce que c'est ce qu'ils font, en fait. Hein. Ils prennent une illustration, puis après ils demandent à l'auteur de prendre l'illustration.
Il prend un titre avec une illustration. Ouais.
Alors, quelle est la suite de vos projets? Nous sommes en novembre 2022. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie après?
Astronaute.
Ouais, pas mal. Pam pam dans l'espace.
Ouais, moi, au niveau bouquin, j'ai rien de prévu parce que j'ai du boulot l'année prochaine, mais je sais pas. Puis en fait, généralement, j'ai beaucoup de débuts de trucs, mais j'ai jamais de trucs arrêtés. Et c'est tout d'un coup, on me dit il faut faire un bouquin, et je fais ça en un mois. Et voilà. Donc là, je peux. Pour l'instant, j'ai zéro projet. C'est bien. Je serai pas déçu.
L'Ariel.
Moi, là, on a sorti la xénographie d'Alien. Mm-hmm. Pareil, j'ai fait la DA. J'ai initié l'idée, fait la DA et fait les illustrations dedans.
Je l'attends.
Il est en bas.
C'est vrai que j'ai dit que je passais en plus.
Et donc ça, c'est un gros morceau. Donc il va y avoir des expos et tout qui vont être faits l'année prochaine. J'ai d'autres trucs avec Karim. mais on n'a pas le droit d'en parler.
C'est quoi?
Je sais pas.
Ah oui, mais si, si, on peut en parler, mais c'est pas... C'est des disques l'année prochaine. Comme je fais un groupe de punk, là, qui a 40 ans, c'est les 40 ans des Ludwig, donc on va sortir, bon, on peut en parler, il faut en parler. Mais on va faire beaucoup de concerts, et on a un projet qui va se passer sur un an. Il y aura 52 morceaux, soit un morceau toutes les semaines mis en ligne, et puis il y aura 4 disques, un par saison. Donc, Zariel fera la direction artistique encore une fois, et puis il va illustrer la première saison.
Avec une illustration par titre.
Voilà.
D'accord.
Ça sera un projet qui se déroulera sur un an, qui demande beaucoup de boulot, c'est pour ça que.
Classe.
Trop classe.
Classe. J'entends les
vous avez la.
Ça fait très jazz pour des punks.
Toutes les semaines, un nouveau morceau. Ça sera pas très jazz. Hein. On essaye, mais bon, on prend de notes dans le jazz.
On passe au portrait chinois.
Allez.
Okay. Oui. Alors un truc très basique. Dans Pam Pam et au Pays des Merveilles, je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin, et, ça met en scène un lapin dans un pays absurde, et il y a plein de personnages. Si vous deviez être un personnage dans tout ça, qu'est-ce que vous seriez? Qui seriez-vous?
Moi, j'aime bien le poireau.
Ah oui.
Parce que j'aurais tellement... Enfin,
aimé être un poireau.
Non. Mais non, il avait l'air tellement cool, tellement sympa.
Et puis boum.
Et puis boum.
Mais il survit dans notre esprit.
Ouais, c'est ça.
Et moi, je veux être le wombat parce que il fait rien. Il lit. Il répond pas aux gens. C'est une sorte de wombat géant dans un immeuble où...
Le
hall d'accueil du paradis, en fait.
Je suis caca carré aussi.
Ah ouais, mais dans le bouquin, on n'en parle pas, parce que sur le caca, c'est mal vu.
Et si vous deviez jouer tous les deux en tant qu'acteur dans une suite d'un film récent, dans quel film vous allez-vous jouer et qu'est-ce que vous auriez...
On pourrait faire Amicalement Vôtre ou Starsky et Hutch.
C'est pas hyper récent.
Hein. Ah, ils vont bien faire un remake. Non, moi, le dernier film que j'ai vu, c'était Downton Abbey. C'était pas terrible. Hein. Donc, bon, je veux pas jouer là-dedans.
C'est pas très punk. Hein.
Non, c'est pas très punk, mais bon, après, je vais voir ce qui sort. Hein.
Ce que j'ai vu récemment. Moi, je me suis refait les Matrix. Et j'avoue que ouais, j'aimerais bien jouer dans une suite de Matrix.
Ouais.
Matrix 5 et après Neo, Zariel.
Non, on peut remplacer Neo, c'est important, mais j'aime bien les agents, l'agent Smith. Ce personnage est quand même assez ouf, quoi. Le logiciel qui devient un malware. Je trouve ça génial.
Vous êtes tous les deux des amateurs de musique et vous avez de la chance, les Utopiales qui décident de créer un orchestre symphonique.
Cool.
Vous voulez jouer quel instrument de musique dans un orchestre symphonique?
Dans un orchestre symphonique?
Bah, tu veux jouer du violon parce que comme je suis absolument nul, ça sera vraiment la classe. Premier violon de l'orchestre des Utopiales, vas-y, enchaîne le concerto de Rachmaninoff. Putain, personne ne veut. Au moins, ça rappellera de moi.
Alors moi, comme je suis très bon musicien, du coup, je vais choisir le triangle. Un triangle, c'est chaud à faire.
Ah ouais.
Ouais, faut être dedans. Si tu le fais à côté...
Il faut qu'il soit bien accordé. Hein.
Non, contrebasse, ouais.
Cette interview touche à sa fin. Merci beaucoup de vos réponses et puis de votre temps. Mais une dernière question. Quelle musique clôture cette interview?
Ah, c'est Zariel qui a décidé. Mais pas les Ludwig.
Pas les Ludwig?
Non, un truc qui te plaît.
Tiens, le dernier Blink 182. J'aime bien.
Le dernier
Blink.
Je déteste.
Parfait. Du coup, ça va te plaire.
C'est des punks, mais de l'autre côté,
c'est
de l'Atlantique.
C'est des punks propres.
Des punks propres. I ain't that cool, a little fucked in the head. They'll be hanging me quick when I'm back from the dead. Get the rope, get the rope, get the rope, get the rope. I'm a punk rock kid, I came from hell with a curse. She tried to pray it away, so I fucked her in church. Don't you know, don't you know, don't you know, yeah, don't you know. They say, you're not safe here. With a knife that's sharp, no way, no. I leave the broken hearted. Oh no, look at the mess we started. Oh no, I leave the broken hearts this way. What you say? You wanna play? Yeah, don't be fooled. I'm only letting you down.
Et donc, Karine, c'est pas du tout un vieux morceau de Blink 182 dans l'imaginaire sur le 101.5. Le choix de Zariel, c'est leur dernier single, Aging. Et ouais, ça a pas trop changé. choix peut-être pas complètement innocent, parce qu'en fait, il y a plein de lapins dans ce clip.
Ah.
Autour des trois musiciens. On retrouvera Karim Berouka, je l'espère, à l'Angers Geek Fest, hein, tout début avril, hein, les 2-3 avril. On l'a invité.
C'est 1 et 2 avril.
Du coup. Ok. Pour parler des. Le thème, c'est utopie, dystopie, je crois.
Oui.
Donc, on aura probablement une table ronde autour notamment du club des punks contre l'apocalypse zombie. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est l'AGF, les places sont, la billetterie est déjà ouverte, pas de programmation annoncée pour le moment. Dans notre agenda, non, je ne le dis pas. Et il y aura des surprises après. l'agenda, demain soir... la librairie Finomenji à Ingrande, c'est Emmanuel Ruben qui vient en dédicace pour comment s'appelle son dernier roman,
c'est Les Méditerranéennes,
qui a eu le prix du roman historique 2022 au festival de Blois. Ce week-end, c'est Angers BD au centre des congrès, donc beaucoup d'illustrateurs en dédicace. Moi, je suis particulièrement intéressé par une table ronde sur la BD de Western, samedi à 14h30, notamment en présence d'HD, qui est le monsieur qui dessine Lucky Luke en ce moment, et qui nous a fait cette belle affiche d'ailleurs où Lucky Luke et Jolly Jumper sont en train d'escalader le château d'Angers. Je ne sais pas si tu l'as vu, elle est assez cool. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Suivez la chaîne Twitch de Danou, hein, dont on parlait en début d'émission. Sa prochaine soirée dont vous êtes le héros sera consacrée à l'éditeur Le Marteau et l'Enclume, comme le disait Sébastien. Et puis, je ne sais plus, j'avais un autre truc à annoncer. C'est nous.
Justement.
Dans une semaine, on sera à la bibliothèque municipale. Toussaint pour une soirée Retour vers les futurs où on présentera notamment nos coups de cœur et surtout les livres primés dans l'imaginaire cette année.
Exactement.
Donc c'est à 19h, entrée libre, venez nombreux. Puis on va pouvoir terminer cette émission en musique avec Helium Kid Canon, la musique du jeu de rôle Death in Space. Alors c'est un long morceau d'ambiance, hein, qui va nous emmener jusqu'à la prochaine émission. Ça tombe bien, c'est les voix du scénario, mais ils vont parler de jeux de rôle, notamment apparemment une interview prévue du scénarurgien. Je ne sais pas qui c'est ce monsieur, mais rien qu'avec ce nom, j'ai envie de l'écouter. Donc Death in Space, deuxième jeu publié par le Stockholm Cartel au Free League Workshop, et voilà, un jeu qui vient de sortir donc en version originale. Dont on parlera peut-être d'ailleurs dans cette émission. Donc on se retrouve nous dans 2 semaines dans Imaginaire sur le 100.5. Et donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou à la bibliothèque municipale. Donc ce sera le jeudi 8 décembre entre 7 et 8. Salut.
Salut, bonne soirée.
Radio G 101.5 FM.
Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent